Lahubali Raciza düşerli çıkarken Nesnevi'nin hadisi. Nesnevi hadisi. Vistu mu'i sentina atayr ise posterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'enverra verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai les choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phériciens, les Hittiens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de Jahvé. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne feras point de Dieu en honte. Donc, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, l'Éternel est un Dieu jaloux. On va voir dans les versets 8 et 9 que c'est une jalousie qui est déclenchée par certains événements. Dans le verset 10, on va voir la jalousie du Seigneur qui est démontrée. Et dans les versets 11 à 17, nous allons voir que c'est une jalousie qui est déclenchée. Quand on a étudié dans la leçon précédente, dans 34 à 7, on avait vu que Dieu avait rappelé à Moïse et au peuple que sa présence avec eux pour le reste du voyage ne se fera qu'à ses conditions à lui. Le peuple devra accepter d'obéir à la loi morale et aux 10 commandements. L'Éternel redonne à Israël le décalogue comme règle de conduite de vie. Donc on a vu que Moïse avait été devant l'Éternel et qu'il avait demandé la grâce de la présence de Dieu dans leur marche pour aller vers le pays que le Seigneur, que l'Éternel leur avait promis. L'Éternel avait d'abord dit, je vais monter avec toi, parlant de Moïse, mais il lui avait dit qu'il ne voulait pas monter avec eux de peur qu'il ne les détruise. Moïse avait continué son intercession et avait obtenu du Seigneur qu'il avait demandé au Seigneur que le Seigneur se révèle à lui, qu'il lui fasse voir sa face. Et l'Éternel avait répondu que la requête qu'il présentait n'était pas possible, qu'il fallait qu'il se présente à lui seulement de dos et qu'il le mettrait dans le creux du rocher, qu'il mettrait sa main, qu'il le verrait de dos. Et après, il lui avait dit les raisons pour lesquelles il manifestait encore de la miséricorde et de la grâce pour Israël. Et on se souvient que le décalogue avait été redonné à Moïse comme règle de vie et de conduite pour le peuple. Moïse n'était pas signé avec l'Éternel. Il n'avait pas dit tu nous as déjà donné cette loi-là, ça ne fonctionne pas, on n'est pas capable de l'accomplir. Moïse, ici, suite au verset 8, nous dit: aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Alors, l'établissement, le nouvel établissement par Dieu du décalogue comme règle de conduite, Moïse n'a pas dit, ça ne donne rien, tu nous mets les barres de la barre trop haut, on ne sera jamais capable d'accomplir ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est incliné à terre et se prosterna. Donc, vraiment dit, il a adoré après la déclaration de Dieu. Donc, le rétablissement du décalogue établit les droits de Dieu sur son peuple et a pour but le bien de son peuple.
Le décalogue viendra nous rappeler que les hauts standards de Dieu n'ont pas été abaissés, mais qu'ils ne seront éventuellement rencontrés que par seulement le médiateur Jésus-Christ, lui seul peut faire. Autrement dit, on discutait un peu mercredi dernier du rôle de la loi. Pourquoi le Seigneur a donné à Israël le décalogue, la loi morale, sachant que le peuple n'était pas capable de rencontrer des standards aussi élevés? La raison est simple, c'est un pédagogue, comme ça nous dit dans le Nouveau Testament. Le but de la loi était de démontrer au peuple leur incapacité à accomplir à la perfection le décalogue de la loi morale des 10 commandements, donnez-lui le nom de Dieu. Et il y a une personne qui est venue sur la terre, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes, et lui, lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli à la perfection les standards de Dieu. Autrement dit, les standards de Dieu, parce que le peuple n'a pas pu les rencontrer, n'ont pas été enlevés ni abaissés. Ils ont été demeurés en place. Et si on veut une étude approfondie, exhaustive, des chapitres des Écritures qui parlent de la loi morale, l'Exode 20, Deutéronome 5, on verrait, et surtout si on les met en rapport avec le Nouveau Testament, comme par exemple le sermon sur la montagne, où le Seigneur vient expliquer que la loi de Dieu, le décalogue de la loi morale, ce n'est pas simplement une confrontation extérieure. Quelqu'un, les pharisiens de l'époque, avait l'impression qu'ils obéissaient à la loi, à la perfection, même Paul le dit avant sa conversion. Il était rigoureux, marchant de la loi, il était un pharisien. Il avait l'impression que le Seigneur leur montre quelque chose par rapport à la loi qu'ils ne savaient pas. C'est que la loi, ses exigences vont jusqu'aux pensées. Par exemple, il expliquait par exemple la question qu'un homme peut avoir physiquement jamais touché sa femme durant toute sa vie. Puis, il peut avoir touché sa femme des milliers de fois dans son esprit. Le Seigneur a dit, quand tu commets l'adultère, tu peux la commettre dans ton esprit sans nécessairement que tu commettes l'acte en soi. Alors, les exigences de la loi, non seulement ce commandement-là, mais tous les commandements, les 10 commandements étaient extrêmement exigeants, extrêmement sévères. Aucun homme n'a jamais été capable de les accomplir, ne sont jamais capables non plus de les accomplir, mais c'est Christ, lorsqu'il est venu, il a accompli la loi morale des 10 commandements à notre place, et ça nous est imputé parce que le Seigneur avait déjà jugé nos péchés sur son Fils, et ça lui donnait le droit ou l'occasion de transférer la justice de Christ sur notre compte à nous. C'est une importance extrêmement à saisir ces choses-là. Mais pourquoi le Seigneur redonne la loi au peuple? Pas parce qu'il s'attend que le peuple va être capable de l'accomplir à la perfection, mais qu'elle soit quand même notre règle de conduite et de morale. On avait regardé dans nos leçons, en plus la théologie systématique, que quand on faisait un usage légitime de la loi, c'est ça a plusieurs raisons. Premièrement, ça nous fait comprendre jusqu'à quel point Christ, en le faisant à notre place, il nous a rendu un service énorme. Ça sert aussi à nous montrer notre péché. La loi révèle notre péché. Genre, en parlant comme un miroir. Quand on regarde les Écritures, la loi, le décalogue d'une façon particulière, qu'est-ce que ça vient nous montrer? Ça vient nous montrer notre péché sous différentes formes, toutes les formes dont le décalogue nous parle. D'abord, les quatre premières tables de la loi nous parlent de nos devoirs envers Dieu. Donc, par exemple, le quatrième commandement, le Seigneur nous dit, le sabbat, on devrait avoir une journée par semaine qui lui est consacrée pleinement, à la fois pour l'adorer et à la fois pour se reposer. Alors, nos devoirs envers Dieu sont exprimés dans les quatre premiers tables, et dans les six autres, ce sont les devoirs que nous avons les uns envers les autres, envers notre prochain. Alors, c'est extrêmement profond la loi de Dieu. Alors lorsque l'Éternel a répondu à la requête de Moïse de lui faire voir sa face, il lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas répondre pleinement à sa demande et qu'il ne se révélerait à lui que de dos. Lorsque l'Éternel passa devant Moïse, il cria les 7 principes exercés dans sa révélation. Premièrement, la miséricorde, on l'a vu dans Exode 34, verset 27, quand l'Éternel a crié devant lui, il a donné les 7 principes dans sa révélation. La miséricorde, la grâce, la lenteur à la colère, la bonté, la fidélité, le pardon et la justice. Ici, quand on regarde l'ensemble du passage qu'on étudie aujourd'hui, quelle est l'idée principale du texte? C'est très certainement le fait que Dieu se révèle à son peuple comme étant un Dieu jaloux. C'est lui-même qui dit. Mais pourquoi l'Éternel déclare qu'il est un Dieu jaloux? Il y a plusieurs raisons. La jalousie de Dieu est déclenchée par plusieurs motifs, par plusieurs raisons. Quand on regarde, par exemple, les deux premiers versets d'Exode 34, aussitôt Moïse était écrit dans la terre, après l'Éternel a dit les principes sur lesquels il basait ses relations avec son peuple, Moïse n'a pas dit, Seigneur, tu nous redonnes encore des affaires qui ne seront jamais capables de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Le médiateur s'est prosterné et a adoré. Et là, il dit quelque chose au Seigneur. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au couroir. Comme on dit au courant ou en québécois, le peuple a une tête de cochon. En québécois, on dit qu'on a une tête de cochon, une tête dure. Le peuple avait une tête dure. Le peuple d'Israël avait une tête dure. Est-ce que nous, on a une tête molle? On a une tête dure, nous aussi. Alors, la raison pour laquelle le peuple, Dieu se devait de marcher avec son peuple, Moïse l'avoue bien humblement, on a la tête dure. C'est pour ça que Dieu faut qu'il marche avec nous. Si Dieu ne marche pas avec nous, on s'égare. Et là, il lui dit une autre. Voyez-vous, il représente à Dieu, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés. Prends-nous pour ta possession. Qu'est-ce qui fait que la jalousie de l'Éternel est déclenchée? D'abord, c'est l'état spirituel du peuple. Le peuple avait sombré dans la plus grossière idolâtrie et dans la dissolution, le gros party. C'était pas un party c'était vraiment la dissolution. Le peuple retrouva grâce auprès de Dieu et évita sa destruction et son jugement par l'intermédiaire du médiateur Moïse. Si Moïse n'avait pas intercédé, Dieu aurait détruit le peuple d'Israël au complet. Alors la faute dans laquelle il était trompé, c'était pas une petite faute, c'était une faute extrêmement grave. Alors Moïse aura imploré le Seigneur pour qu'il accepte de marcher avec le peuple. La réponse de Dieu est généreuse et pleine de grâce. Il rétablit le décalogue comme règle de conduite et de vie. Et en établissant une alliance avec le peuple. Moïse reconnaît aussi la faiblesse et la fragilité du peuple en les qualifiant de courroies. Ici, on traduira les deux, on avait la tête dure. On n'a pas utilisé l'expression, on va utiliser d'autres expressions. Donc, la jalousie est déclenchée d'abord par l'état spirituel du peuple. La deuxième chose, elle est déclenchée par la soumission du médiateur aux conditions de Dieu. Quand on regarde, nous, notre médiateur, c'est Jésus-Christ, les conditions de Dieu d'obéir parfaitement au décalogue pour tous les hommes n'étaient pas changées. Et c'est seul Jésus-Christ qui a réussi à se soumettre pleinement et parfaitement à l'ensemble des décalogues, de tous les exigences du décalogue, dans toutes les actions de sa vie, en pensée, en parole, en action, et il n'a jamais omis d'obéir à Dieu de quelque façon que ce soit. soit. Et il n'a jamais eu quelque fausse secrète que ce soit. Alors, les standards de Dieu avaient été maintenus, et la seule personne qui pouvait nous monter comme peuple à la hauteur de ces standards-là, c'est par l'intermédiaire du médiateur qui est Jésus. Alors, on voit ici le médiateur Moïse accepter de se plier aux conditions de Dieu et d'accepter qu'il se soumet aux règles du gouvernement de Dieu sur son peuple. Remarquez que cette soumission-là est spontanée, sans questionnement, ni discussion, et elle est exprimée par l'adoration. Du coup, l'Éternel dit quelque chose, il redonne la loi comme règle de conduite, et là, Moïse, il ne commence pas à discuter avec Dieu, ben voyons, non, on peut. C'est bien que si tu nous redonnes ça, ça ne marche pas jamais. Première chose qu'il fait, il se plie à la volonté de Dieu. Vraiment, le chapitre, le verset 8 est beau. Aussitôt, spontanément, il a entendu ce que Dieu dit. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. La prosternation de Dieu sur l'adoration. Oui, Seigneur, ce que tu dis, ça a plein de sens. Je le dis. On veut, on accepte que tu maintiennes des standards extrêmement élevés. C'est très important. Alors, notre médiateur Jésus-Christ n'a-t-il pas fait la même chose pour nous? Les standards de Dieu ne sont pas avec si. Christ a accompli les standards de Dieu à notre place. Ça, c'est bien important de le saisir. C'est pas nous qui avons obéi à la loi de la perfection. Même si on le voulait, on ne serait pas capable. Parce que les exigences de la loi sont trop profondes, sont trop larges pour qu'on puisse être capable de le faire. Quand on comprend que c'est Jésus qui l'a fait à notre place, mais je trouve que ça nous soulage. Parce que quand on connaît les exigences extrêmement élevées de quelqu'un face à nous, et qu'on sait qu'on n'est pas capable de le faire, si quelqu'un dit, ben oui, il va le faire à la place, on se dit, ah, ça va nous faire. Troisième raison pour laquelle la jalousie de Dieu est déclenchée, c'est par l'intercession du médiateur qui est centré sur une idée bien particulière, celle de la grâce. Remarquez dans le verset, le médiateur va venir recentrer sa requête quand il demande à Dieu, marche avec nous. Il recentre sa requête sur quelque chose de particulier, sur la grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et aussi sur la nécessité absolue que le Seigneur marche avec nous. Souvenez-vous, Moïse avait déjà dit au Seigneur, si tu me montes avec nous, parlant du peuple, pas juste avec lui, parce que le Seigneur lui a offert de monter juste avec lui. Si tu me montes avec nous, on ne veut même pas partir. Il était comme lucide, notre ami Moïse. Extrêmement lucide, il savait que si Dieu ne marchait pas avec eux, il n'irait pas loin, ça ne marchera pas dans la terre. Donc, il ressent sa requête de demande à Dieu de marcher avec eux sur la grâce et aussi sur la nécessité absolue. Il sait très bien que si Dieu ne marche pas avec eux, ça ne fonctionnera pas. Autre chose, il ressent sa requête sur la faiblesse du peuple. Il dit, car le peuple a le coup pour moi, le coup raide. Quand on parle de quelqu'un, le coup raide, c'est quelqu'un qui est extrêmement tête de cochon, comme on peut dire. Le Seigneur lui commande des choses, il n'obéisse pas. Ça va bien. Et quand on regarde toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on l'a vu à de multiples reprises, jusqu'à quel point le peuple de Dieu était rebelle. Dieu leur disait, faites pas ci, faites pas ça, et il faisait pareil. Est-ce que nous, on peut s'identifier jusqu'à un certain point au peuple de Dieu, Israël? Très certainement. Autre chose qui est très à remarquer dans le verset 8, lorsque Moïse représente sa requête auprès de Dieu, il y a quelque chose de très remarquable dans le verset, et c'est le fait qu'il identifie le médiateur, qui est Moïse, s'identifie avec le peuple. Est-ce que lui avait péché contre la loi? Non. Regardez bien ce qu'il dit. Verset 8. Combien ça dit? Il dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au pouvoir, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Il dit au milieu de nous. Donc, il s'identifie avec le peuple. Le médiateur, qu'il soit Moïse ou qu'il soit Christ, s'identifie avec son peuple. Il dit pas les iniquités du peuple. Il dit nous. Il s'inclut dans la question du péché. Et il dit pas prends-les. Il dit prends-nous, le peuple. Alors, la question de l'intercession du médiateur centrée sur la grâce et sur la nécessité absolue que le Seigneur marche avec le peuple est basée sur la faiblesse du peuple, est basée aussi sur le fait que le médiateur s'identifie pleinement. On se souvient dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, quand Paul s'est converti. Le Seigneur lui dit à Paul, il dit pas pourquoi persécutes-tu mon peuple? Pourquoi me persécutes-tu? Paul ne persécutait pas Jésus-Christ. Paul persécutait les enfants de Dieu. Il rentrait dans les synagogues, il forçait les gens à faire des choses, il les emprisonnait, il les lapidait, des choses-là. Et le Seigneur, par sa question, s'identifie d'une façon extrêmement intime avec son peuple. Il dit, pourquoi? Il dit pas pourquoi persécutes-tu mon peuple? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc, Paul, à travers les enfants de Dieu, ultimement, il persécutait Christ lui-même, l'identification du médiateur avec le peuple. Alors ici, Moïse s'identifie avec le peuple, comme nous, Jésus-Christ, le médiateur, s'identifie lui aussi avec son peuple. Si vous vous souvenez aussi pourquoi la jalousie était déclenchée, de Dieu était déclenché, c'est par la ville intercession. C'était de façon progressive par Moïse. D'abord, dans les deux chapitres précédents, Moïse avait demandé au Seigneur que sa colère ne s'enflamme point. Isaïe 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? T'avais une grande puissance et t'avais une même force. D'abord, il avait d'abord demandé à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas, parce que si elle se serait enflammée, le peuple serait disparu. Donc, Moïse avait intercédé à plusieurs reprises auprès de Dieu pour que certaines choses ne se produisent pas. Il avait ensuite rappelé au Seigneur que ses ennemis pourraient mal interpréter le fait qu'il ne marche pas sur son peuple. Exode 32, verset 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu me fais à ton peuple. Voyez-vous, il y avait à cœur le fait qu'il savait que si Dieu ne marchait pas avec le peuple durant leur marche, que ça tournerait la catastrophe. Et que ses ennemis, les Égyptiens, qui les avaient vus sortir d'Égypte, qui verraient sont maintenant dans un état catastrophique, seraient un mauvais témoignage pour Dieu lui-même. Ça, il dit. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'ils les avaient sortis? Alors, il plaide, il rappelle au Seigneur que ses ennemis pourraient mal interpréter le fait qu'ils ne marchent pas. Autre intercession de Moïse dans tout ce processus-là, c'est qu'il avait ensuite plaidé pour obtenir la présence de l'Éternel avec le peuple, et non pas seulement avec lui-même, dans Exode 33, versets 15 et 16. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » C'est assez... comment dire, si tu ne marches pas avec nous, on ne va pas sortir. On doit rester ici. On comprend très bien ça. Et verset 16, comment serait-ce donc certain de trouver grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Donc, Dieu lui avait offert de marcher avec lui. Moïse a intercédé auprès de Dieu. Il dit, marche pas juste avec moi, marche avec ton peuple. Tu marches pas comme ça, ça fonctionne. Alors, quand on regarde la manière dont Moïse intercède auprès de Dieu pour obtenir des faveurs de lui. C'est extrêmement habile, ça se fait d'une façon progressive, d'une façon très intelligente. Autre chose, et non pas la moindre, il avait demandé le pardon des iniquités et des péchés. Isaïe 34, verset 9. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple courroyable. » Et là, la dernière partie du verset, « Pardonne-nous nos iniquités et nos péchés, et prends-nous ta possession. » L'Éternel se laissa fléchir par l'intercession de Moïse. On lit par exemple dans le psaume 94, verset 14, « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » On va voir dans le verset 10, le deuxième point du sermon, une jalousie qui est démontrée. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'enverra verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai les choses terribles. » L'Éternel vient dire qu'il va faire des choses extraordinaires, qu'il va les faire par l'intermédiaire de Moïse. Il dit des choses, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Alors la jalousie de l'Éternel va s'exprimer dans leur voyage. Premièrement, elle va être démontrée, cette jalousie-là, par quelle façon? Le premier point, on nous dit dans le verset 10, « Voici, je traite une alliance. » L'Éternel renouvelle l'alliance que le peuple avait brisée. Par conséquent, il accepte de pardonner au peuple, de marcher avec le peuple, de les introduire dans la terre de Canaan et d'en extirper les nations. De quelle autre façon la jalousie de l'Éternel va-t-elle être démontrée dans le verset 10? C'est par une manifestation de sa présence devant tout le peuple. Quand vous disiez, dans le verset, les produits qui ont eu chez les nations, tout le peuple qui t'environne, on parle de 100 000 personnes, on parle de quasiment 1 million de personnes avec des enfants. 1 million de personnes vont être témoins de ce que je vais faire pour le peuple d'Israël. C'est pas un témoin ou deux, là. Tout le peuple d'Israël va voir ce que je fais. Puis là, il a dit, c'est par toi, par l'intermédiaire, par l'instrumentalité de Moïse, qu'il va faire ces choses. Donc, cette manifestation de sa présence sera évidente et incontestable aux yeux de tout le peuple. Elle sera aussi unique et spectaculaire, révélatrice de son omnipotence. Ses actes s'accompliront à trois endroits. Dans leur marche dans le désert, dans leur entrée dans la terre de Canaan et dans leur conquête de la terre de Canaan. Quand l'Éternel accepte, à partir du moment où je vais marcher avec vous, je vais faire des choses terribles, je vais me servir de toi, Moïse, on peut lire dans le reste des Écritures, là où cette fameuse promesse que l'Éternel fait, je vais être avec eux, je vais faire des choses terribles et manifestes aux yeux de tous, on peut les voir quand ils ont marché dans le désert, on peut les voir quand ils sont entrés dans le pays, et on peut les voir quand ils ont conquis et fait sortir les nations. Il y a des choses extraordinaires qui se font. On va juste regarder quelques miracles que l'Éternel a fait avec, dans le peuple d'Israël. La promesse qu'il fait ici, on la voit se réaliser plus tard dans l'avance du peuple d'Israël vers leur destination. On peut citer par exemple l'engloutissement vivant de Corée, de Datan et d'Abiram quand la terre oublie sa bouche. Vous vous souvenez quand le Seigneur a fait en sorte que la terre s'est ouverte et sont descendus vivants. C'est une chose extraordinaire. C'est tout le peuple d'Israël l'a vu. Et c'est ça qu'il disait, il va faire une chose au milieu de toi, tout le peuple va voir des choses extraordinaires. Autre chose, l'exemple dans leur marche du désert, L'eau de Moïse était sortie du rocher. On se souvient que le peuple marchait dans le désert, avait la soif, il manquait d'eau. Et là, ils ont dit, oh, on va retourner à l'Égypte, on va aller on a de l'eau, on ne sait plus d'eau. Tout le monde murmurait, tout le monde chialait. L'Éternel a dit, frappe le rocher une fois, je me souviens qu'il l'a frappé deux fois, et ça lui a donné des problèmes, mais est-ce que le miracle que Dieu a fait en plein désert, simplement avec un bâton, de frapper un rocher qui avait sorti assez d'eau pour abreuver 600 000 à 1 million de personnes, ça n'a pas une petite affaire. C'est ça que le Seigneur a fait dans les affaires, des choses prodigieuses aux yeux de tout le peuple. Autre chose qui s'est passée dans le désert, dans leur marche dans le désert, la guérison par le regard du serpent des reins depuis qu'il avait été mordu par les serpents du monde. Vous venez de cet épisode-là, le peuple se promenait dans le désert, et à un moment donné, ils ont été mordus par les serpents du monde. Et la recette que Dieu leur avait dit pour qu'ils puissent être guéris, c'était de mettre un serpent sur une pêche, et ceux qui le regarderaient seraient guéris. Quand vous lisez le Nouveau Testament dans le livre de Jean, dans le chapitre 3, le Seigneur ne rappelle-t-il pas ce fameux passage de ceux qui se leveraient les yeux sur le serpent qui serait sur le. De la pêche. C'est exactement pour rappeler sa crucifixion que ceux qui lèveraient les yeux vers Christ, vers le crucifié, qui seraient guéris de leur maladie qui est le péché. Autre passage, j'avais eu l'âme qui avait parlé à Balaam, on va reprendre de sa folie, ceux qui ont lu l'Ancien Testament. Si jamais, je ne sais pas où vous vous êtes rendus, tous et chacun personnellement dans vos lectures, mais je vous conseille très fortement de lire les Écritures du premier verset de Genèse au dernier après. Faites-le au moins une fois par an. Parce qu'il y a des choses que si on ne le fait pas, je vais vous parler par exemple de l'âme qui avait parlé à Balaam de reprendre sa folie, ça va vous dire absolument tout ça. À moins que je vous raconte les choses. Aussi, la division des eaux du Jourdain pour le passage du peuple, la semaine passée, je viens vous emmener le passage où Josué s'apprête à rentrer dans le pays et il se devait de traverser un fleuve dont les eaux sont en crue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une rivière au printemps lorsque les eaux, moi je l'ai vu une fois à Petit-Côte, à Couchy, là, dans l'esprit. La rivière était au mois d'avril et il y avait eu énormément de neige qui avait fondu. Il y avait un pont qu'on était, on regardait ça de loin, puis on l'a voulu monter à vue d'œil. C'était effrayant. C'était une toute petite rivière. La Jourdain, c'était quand même une grosse rivière. Pour que l'Éternel prenne une rivière comme ça, la coupe, fasse en sorte que l'eau remonte et que pour laisser passer le peuple, c'était une petite affaire. C'était un miracle extraordinaire, c'est ça que l'Éternel dit quand on marche avec vous, on va me servir de toi et on va faire des choses extraordinaires. Non seulement Moïse, mais aujourd'hui également. La chute des murs de Jéricho, marche autour de la ville, ce qu'il faut, mais ça ne s'est pas entendu. As-tu logique? Les murs, quand on parle des murs des anciennes cités de ce temps, c'est à peu près des murs de 8, 10, 15 pieds de large. Et une hauteur extraordinaire. Normalement, la seule façon de pouvoir rentrer dans une ville lors d'une guerre, c'est avec des béliers, que tu n'arrêtais pas de bûcher après ça des jours et des jours et des jours pour venir créer une petite brèche. L'Éternel est égal. Mon père ne trouve pas le temps, hein? 6 jours, le 7e jour, tout le monde est venu. Quand la riche est venue. Ça pas c'était pas le peuple d'Israël qui faisait quelque chose d'intelligent. C'était Dieu lui-même qui était intervenu. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Autre chose, ce n'est pas non plus un petit miracle dans l'Ancien Testament, c'est quand Josué est rentré dans la terre, il est en train de se battre avec une nation ennemie. Et là, le soleil était souvent de se coucher. Il aurait manqué de temps pour pouvoir écraser le peuple. Le Seigneur a fait en sorte que le soleil demeure dans le ciel, pleine lumière, 24 heures. Bon. C'est qui l'a reçu aussi. On a changé la vie. C'est le Seigneur qui a permis ça. Alors ça, ça fait partie de ce qu'il est en train de leur dire dans le verset 9.
Non, le verset 10, ça dit, « Je ferai en présence de tout mon peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays chez aucune nation. » On vient d'en nommer quelques-uns. On pourrait allonger la liste de tous ces choses. Quand l'Éternel dit quelque chose, là, vous pouvez chercher dans les Écritures l'endroit ou les endroits où le Seigneur va accomplir ce qu'il dit. Le Seigneur ne parle jamais un mot de notre chose. Pas comme nous autres, on porte le temps à parler de notre chose. Mais pas l'Éternel. Quand l'Éternel dit quoi, soyez certain que ça va accomplir. Et aussi, autre point par lequel la musique du Seigneur, de l'Éternel, va se démontrer, et par le ministère béni du ministère du médiateur Moïse. Le Seigneur va utiliser le ministère de Moïse pour manifester sa puissance auprès du peuple et des nations qui seront témoins pour plusieurs de ces illustres nations. On passe à la troisième point, les jalousies déclarées. Pourquoi déclarer? Parce que le Seigneur dit les choses à partir du verset 11. Il déclare à Moïse des choses importantes. Il dit, oui, je vais marcher avec vous autres, mais il y a des choses que vous, comme peuple, va falloir que vous fassiez vous aussi. C'est exactement la même chose aujourd'hui. L'Éternel marche avec nous, mais il nous donne les Écritures comme règles, comme commandements pour savoir comment nous comporter sur la terre. L'obéissance, autrement dit. La présence de Dieu, c'est une bénédiction énorme dans notre marche en avant de la mission. Mais le Seigneur a averti aussi, verset 11, à partir du verset 11, c'est toute une série d'avertissements, de commandements qu'il donne au peuple de la manière dont ils doivent se comporter dans leur marche. Ok, marche avec vous, mais gardez, vous aussi, vous êtes votre part. Exactement la vie chrétienne de ça. Le Seigneur marche avec nous, mais il nous donne une multitude de commandements sur la manière dont on doit se comporter sur cette terre. Et si on le fait, de beaucoup de bénédictions. Verset 11, la première jalousie déclarée parce qu'il commence par un avertissement et un rappel, verset 11. Prends garde à tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Allez, je t'attire. Fais attention à ce que je viens de te dire. On va le dire comme ça. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Égyptiens, les Jébusiens. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous remarquez comme il faut le texte, qu'est-ce qu'il dit. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, dis pas tu chasseur. Voici, en anglais, c'est behold. Behold, en anglais, quand on rencontre le terme voici, ça veut dire arrête, regarde et fais attention à ce que je t'ordonne de dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je chasserai devant les Amoréens, Cananéens, Hittites, Phéréziens et Égyptiens. Il veut rappeler à Moïse que les œuvres qui vont s'accomplir, ça va être par lui, par sa main, par son action personnelle. Là, c'est important de se faire rappeler aussi à nous aussi, la même chose. Dans notre milieu, une position, là, on n'est pas un gros jour ce matin, mais une position que là, on dirait du jour au lendemain, le Seigneur va dire. Permettrait qu'il y ait un réveil à Rouen que du jour au lendemain, l'Église soit pleine à craquer et que du monde voudrait aller écouter sur moi dans le sous-sol. Comme ça, c'est ça, c'est dans l'histoire de l'Église. Si on verrait une affaire comme ça, on serait en marche. Ça serait pas faire des choses. Mais il nous rappelle que quand il fait des choses grandioses, ce n'est pas notre action, même si le Seigneur pourrait servir. Soit de notre éducation, soit de notre évangélisation, on peut servir de toutes sortes de moyens, mais si l'Église est à se remplir, on pourrait me dire, ah, c'est notre œuvre, notre travail. Oui, le Seigneur peut servir de nous, mais ultimement, c'est toujours lui qui la première, de toute chose qui se donne le premier. L'Éternel demande à Moïse d'être attentif à ses paroles, il lui rappelle qu'il sera personnellement la cause des victoires du peuple, afin que celui-ci ne se fasse pas d'illusions et ne s'enfle pas dans
sûr que le peuple, là, quand ils se sont mis à se battre avec les Amoréens, avec les Canaanéens, avec les Hittiens, avec les Girgasiens, les Périsiens, les Jébusiens, tous des peuples puissants, c'est sûr que le peuple a dit, ouais, on l'a, nous autres, les Israéliens. Quand la première chose qu'il lui dit, je vais marcher avec vous autres, mais je t'avertis, ce qui va se passer, c'est, j'en suis la cause. Donc, deuxièmement, verset 12, un appel à l'obéissance. Ça, c'est important. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de faire la connaissance d'un piège pour toi. Il dit ça à Moïse, puis vous souvenez-vous d'une des premières choses que Josué, quand il est rentré dans le pays, m'a amené à la petite ville qui s'appelait Haï. Et là, ils m'ont dit, qui n'a pas mis là? On va l'emmener tout le peuple là. On va dire les bâtards, le Dieu. Ils n'ont pas obéi à ce que l'Éternel a dit. Qu'est-ce que l'Éternel a permis? Un petit village, des écrases. Puis là, Josué, il pleurait dans l'Éternel. Qu'est-ce qu'il avait fait? Une alliance? Parce qu'il y a aussi de l'histoire, le passage où il y avait du pain sec, puis ils ont fait une alliance avec les nations. Le Seigneur a dit, ne faites pas d'alliance avec les nations. L'équivalent pour nous aujourd'hui, ce serait ne faites pas d'alliance avec les païens. Ne vous partez pas en affaires avec les païens. Ne vous mariez pas avec les païens ou les païennes. Etc., etc., pour allonger dans la liste. Alors, quand le Seigneur dit ne faites pas alliance avec les nations, s'ils le font, c'est sûr que. Parce que le Seigneur leur dit de peur qu'il ne soit qu'un piège pour toi. Si tu te prends un endroit, et tu mets le pied dans un piège d'ours, tu vas savoir c'est quoi un piège. Alors, si tu fais ça, une alliance avec les nations, ça va faire comme un piège d'ours dans lequel tu mets le pied. Ça va te blesser, ça va te faire mal, ça va t'emprisonner, ça va te faire des bêtises même. Donc le Seigneur lui commande expressément de ne faire aucune alliance avec les nations. Ces alliances manifestent un manque de foi vers l'Éternel et les conduisent inévitablement vers la catastrophe. Chaque fois que le peuple d'Israël a fait des alliances avec les nations, ils disent que Dieu a le sens de lui voir ça. Toujours pour la catastrophe. Autre chose, verset 13, il leur fait un autre appel. Un appel à la guerre impitoyable contre l'idolâtrie. Exode 34, verset 13. Au contraire, il dit, faites pas d'alliance. Il dit, au contraire. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Les verbes utilisés ici sont forts. Renverser, briser, abattre. N'est-ce pas pour nous un rappel que nous devons combattre avec une grande force? Toute forme d'idolâtrie de nos vies. Et ici, c'est facile de voir le peuple d'Israël comme étant un peuple idolâtre et adoré le bout d'or, et tout ça. Mais pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, modernes, du 21e siècle, est-ce qu'on peut encore commettre des péchés d'idolâtrie? La réponse est oui. Mais comment ça peut s'exprimer un péché d'idolâtrie aujourd'hui, au 21e siècle? Si tu n'auras pas ton culte de dimanche, pour aller voir une partie de hockey, de sport, ou si tu n'auras pas ton culte pour un loisir, ou pour quoi que ce soit que tu fais. Autrement dit, une définition pour nous, chrétiens modernes, de l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place. Où es-tu le mercredi soir quand tu es? Où es-tu le dimanche matin quand il y a un enseignement sur le Seigneur? Où es-tu? Est-ce que tu préférais ta famille, ton travail? C'est subtil, hein? On a bien besoin de dire pour nous, c'est idolâtrie. Tout ce qui prend la place de Dieu. Moi, je le vois comme ça, et je pense que c'est ça qu'on va aussi. Aussi, dans les versets 14 à 16, le Seigneur vient ici leur faire une déclaration solennelle et qui va les sonder au plus profond de leur âme. Il leur dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Et d'idolâtrer un autre Dieu, ça peut être notre travail, ça peut être notre famille. Le Seigneur a toujours dit qu'il fallait faire passer une vie en premier. Si on fait passer notre famille avant Dieu, on fait en quelque sorte une forme d'idolâtre. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir dans la lection d'Aline Martin. La deuxième partie, c'est le Dieu fort qui est jaloux. Parce que le mot dans les bruits, c'est elle. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans vos leçons sur les noms de Dieu, le nom de elle veut dire le Dieu fort. Et il utilise. Autrement dit, la caractéristique, une des caractéristiques de sa personne comme étant la force. Moi, le fort, je suis jaloux. Pas jaloux dans le sens où nous, on utilise le mot jaloux, quelqu'un est jaloux vers sa blonde, mais c'est pas ça. Je nous dis, c'est l'idée que Dieu, ce qui lui appartient, ses attributs, ça, il le dit, il ne donnera sa gloire à personne d'autre. Si Satan veut se faire adorer, c'est qu'il est en train de se prendre pour Dieu. La gloire n'appartient pas à Satan. Si tu adores Satan, c'est une erreur monumentale. Tu adores la créature au lieu du créateur. Ou quelque autre forme. Alors, on dit, il est un Dieu jaloux, et c'est à remarquer. Parce que j'ai vu ça, David Martin utilise, il traduit, c'est le Dieu fort qui est jaloux. Je vais regarder dans les commentaires, c'est le mot, dans l'hébreu, c'est elle. Ils ont traduit le mot elle, parce que dans nous, on dit qu'il est un Dieu jaloux, mais dans la version de David Martin, c'est le Dieu fort. C'est elle, le nom de Dieu, elle. Il prend l'attribut de sa puissance, de sa force, de dire c'est. Dans cet attribut-là que je suis, la force. L'Éternel est jaloux de sa propre gloire. Ésaïe 42, verset 8, le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Quand on fait des formes d'idolâtrie dans nos vies, on est en train de donner à cette forme d'idolâtrie-là une importance plus grande qu'au Seigneur. Le Seigneur devrait avoir la primauté en tout temps, en toute chose, dans nos vies. L'Éternel est aussi jaloux des affections de son peuple. Proverbe 23, versets 26 et 27. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes doigts. Alors, la prostituée est une faute profonde et l'étrangère un plus profond. Le tout est trois choses. Cantique 8, verset 6. Mets-moi comme un souffle pour ton cœur, comme un souffle pour ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible, comme le séjour des morts. Les ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternité. Donc l'Éternel est jaloux de sa propre gloire, il est aussi jaloux des affections de son peuple. Il ne veut pas qu'on place nos affections sur des choses étrangères à sa personne. Et qu'on ne fasse pas d'illusion, on a tous dans nos vies, à quelque part, des formes de l'idolâtrie qui nous regardent. Et je ne pense pas que la solution, c'est de se regarder nous-mêmes et de dire, « Ouais, je vais me tourner, je vais regarder si j'en ai. » C'est pas ça. Si vous faites ça, vous n'en trouverez pas. Vous allez trouver que c'est bien bon. Mais demandez à l'Éternel de le faire. Là, c'est le bien. Quand on dit à Dieu, son moi, l'Éternel est équipé pour son bien. Nous, on sonne. On est porté à parler trop profond, on n'aime pas ça. Mais si on veut se faire avec sincérité, sonde-moi pour voir s'il y a des formes d'idolâtrie dans ma vie. Faites-le. Et autre chose, dernière chose, que l'Éternel est jaloux. Il est jaloux du bien-être de son peuple. Donc, il est jaloux de ses propres attributs, donc il ne veut pas le partager avec qui que ce soit, parce qu'il n'y a personne qui est capable de l'approprier, comme on peut le dire. Il est jaloux aussi des affections de son peuple, il ne veut pas qu'on aime autre chose que lui. Parce que si on aime autre chose que lui, on fait une erreur. On fait une confusion. Et l'Éternel, premier point, est jaloux du bien-être de son peuple. Zacharie 2, verset 8. Ainsi par l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui nous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. L'Éternel nous dit que celui qui nous veut du mal et qui nous fait du mal, c'est comme si on touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Donc Dieu nous offre cœur en terre. Donc il est jaloux de notre bien-être. Et le dernier verset, il fait l'appel au discernement. Verset 17 dit, tu ne te feras point de Dieu en faute. Ou le dernier verset, il est en train de rappeler leur habitude de faire des choses, de se créer un Dieu avec la faute de l'autre part, de l'autre. Autrement dit, il est en train de leur rappeler leur faiblesse et leur tendance naturelle à tomber dans le monde. L'Éternel appelle à son peuple de sa faiblesse, celle de se donner une représentation visible et grotesque de lui-même. N'était-ce pas qu'une représentation visible et grotesque de Dieu que de prendre un morceau de fonte, de le couler d'or et de l'adorer, tu es notre Dieu? Ça pourrait être plus grotesque. Dieu est tellement plus grand que ça. Quand on étudie les attributs de Dieu dans nos leçons d'attributs, la théologie systématique, est-ce que ça nous donne, quand on les passe en revue, les attributs de Dieu, et qu'on sait que chacun d'eux sont infinis, prendre un morceau de métal et de l'eau de l'or, c'est pas une confusion ordinaire. Le peuple, la dernière chose qu'il dit au peuple, le dernier avertissement, il leur dit, coudonc, avez-vous du discernement ou non? Je ne suis pas renfermable dans un morceau de métal fait de l'or. C'est pas moi. Il leur rappelle que ces dieux-là n'ont aucune sensibilité, aucune intelligence, aucun pouvoir. Cependant, les hommes ont une tendance naturelle à se bâtir de ces dieux, car ceux-ci les laissent vivre leur péché, leur dissolution, tout en se persuadant eux-mêmes d'être religieux et spirituel. Voyez-vous, l'homme premier, quand on regarde les religions qui existaient à cette époque-là, Baal, toutes ces choses-là, alors, ordinairement, c'était toujours rattaché à la prostitution qui avait sacrée. Il rentrait dans une bâtisse, il y avait des prostituées, et là, au son de la musique, et avec toutes sortes de choses qu'on disait spirituelles, avec toutes sortes de l'encens, toutes sortes de rebelles, on pourrait dire, se faisait l'illusion qui adorait Dieu. Et vous, l'être humain, il a tendance à demeurer religieux, puis à se complaire dans son péché. Il fait du péché, puis il pense qu'il adore Dieu en le faisant. Les nations qui avaient autour d'Israël, pourquoi Dieu leur demandait de ne pas se joindre à eux, de ne pas faire alliance avec eux? Parce qu'il leur disait, vos filles vont marier les gars, puis vos gars vont marier les filles de ces nations-là, puis ils vont vous emmener à manger leurs sacrifices, puis ils vont vous entraîner à faire comme Moloch, par exemple, on prenait des bébés, puis pour obtenir des paroles auprès de Moloch, on prenait un bébé, on le faisait cuire tout. Vivant, dans la bouche, il chauffait ça, là, les tournages, là. Qui mettait les enfants là-dedans. Ils faisaient un peu du tambour pour pas entendre des cris. Ça, c'était les religions de ceux qui entouraient Israël. Dieu leur dit. Mêlez-vous pas que ces gens-là sont mêlés, sont confus, ne comprennent rien. Et ces avertissements-là, ils les ont fait combien de fois? Mais ils allaient voir quand vous allez rentrer dans les des Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tombé exactement dans les pièges que Dieu leur avait dit. Ils n'ont pas fait ça. Est-ce que nous, il y a encore des choses que Dieu nous dit de ne pas faire ça qu'on fait pareil? Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Sans doute, il y en a énormément. La première, c'est adorons notre grand médiateur Jésus-Christ, qui nous maintient dans la grâce, la miséricorde, le pardon, et par lequel, par Jésus-Christ, nous demeurons libérés. Si aujourd'hui, Dieu marche avec nous, c'est par la miséricorde du médiateur Jésus-Christ. Alors, adorons notre grand médiateur. Deuxième point à appliquer dans nos vies, avec la leçon d'aujourd'hui, méditons sur l'histoire du peuple d'Israël et tirons-en des leçons pour notre propre vie. Vous allez voir que si vous lisez les Écritures dans l'Ancien Testament, Dieu juge sévèrement les ennemis de son peuple. Mais Dieu corrige aussi sévèrement son peuple. Rappelons-nous que nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël. Dieu, s'il corrigeait son peuple dans l'Ancien Testament, continue de nous corriger et nous faire attention à ce qu'ils ont fait des choses. Moi, je l'ai vu personnellement. Juste un exemple de désobéissance à Dieu. Une fille qui va se mettre à sortir comme un converti, puis elle va lui marier pareil, même si tout le monde, les pasteurs, vont lui dire fais pas ça, vous ne tenez pas sur le jour de l'évangile, vous êtes un converti. Ceux qui font pareil, il y a certains cas que ça tourne à la question. Ou quelqu'un, chrétien, il va sortir en affaire de la même converti. Il parle de quelqu'un qui va dire, ah, bien, ma chère, mon idée, ça va tourner tôt ou tard à la catastrophe, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous, vous dérangez dans l'honnêteté, il est payé, il est fou, il va vouloir camoufler de l'argent pour déclarer l'argent à l'impôt, il va vouloir faire des factures, pour faire des factures, pour faire payer les taxes, etc. Rien de dit. Chaque fois qu'un chrétien l'a fait, ça peut tourner. Le Seigneur a des commandements qui nous donne des études. C'est pas dans le but de nous rendre malheureux et de nous empêcher de faire nos affaires. Il a jamais dit à un chrétien ne porte jamais une affaire. Il a dit ne porte jamais une affaire avec un chrétien. Et si le Seigneur ne donne pas par sa providence les moyens de partir en affaire par tes propres moyens ou en t'alliant avec un vrai chrétien, et troisième application, c'est que l'Éternel lui-même, dans les Saintes Écritures, dans le passage qu'on vient de lire, dit de lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Et le verbe, le mot elle, son nom, elle est utilisé. Le Dieu de force, c'est le Dieu. Alors il a la force d'aller te punir ou te corriger si tu fais les idées définitivement. Alors, séparons-nous de toute forme d'idolâtrie. Implorons avec sincérité l'Éternel de nous sonder s'il n'y a pas quelque forme d'idolâtrie ou si les gens sont faits. Encore une fois, on dit les gens. Pas bon, toute forme d'idolâtrie. Faisons, comme les Écritures, comme l'Éternel lui-même le dit, faisons systématiquement et impitoyablement la guerre. Il est un Dieu qui est jaloux de sa gloire. Il est un Dieu qui est jaloux des affections de son peuple. Il est un Dieu donc, qui est jaloux du bien-être de son peuple. Soyons fidèles, sa grâce, sa gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a rappelé dans ce passage, tu es un Dieu d'une grande puissance, tu es un Dieu de grâce que tu as accordé à Moïse de marcher. Mais en lui rappelant des choses, des leçons, des commandements, en lui commandant des choses importantes pour qu'il n'ait pas qu'on s'égare, qu'on fasse commettre des bêtises. Seigneur, permet que nous, non seulement nous regardions notre monde comme Israël en écoutant ces leçons, mais que nous nous identifions, nous reconnaissons dans certains comportements de ce peuple, et Seigneur, que nous cherchions ta présence par-dessus tout. Et Seigneur, sonde-nous. Savoir si Dieu a quelque forme d'idolâtrie dans nos vies, montre la vie, fais-nous avoir l'horreur de faire l'incarner de vous, de la rejeter et de te redonner la prééminence, la première place en toute chose dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies sans aucune exception. Nous te demandons par Jésus, le Christ, le Seigneur, notre Père.
Amen.